Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
It's 8:52 here in New York. I'm Bryant Gumbel. We understand that there has been a plane crash on the southern tip of Manhattan. You're looking at the World Trade Center.
Obviously a very disturbing live shot there. That is the World Trade Center, and we have unconfirmed reports this morning that a plane has crashed into one of the towers.
Tragic accident apparently has just happened in New York City. A plane has crashed right into the World Trade Center. You can see
ces images infernales d'apocalypse, de chaos, on s'en souvient tous. Vous sortiez de l'école ou vous étiez peut-être encore au travail et vous découvriez bouche bée en direct à la télévision les tours jumelles de New York en feu. C'était il y a 18 ans, le mardi 11 septembre 2001. L'agence France Presse, elle, y était. Nous avons un bureau à Manhattan et nos deux journalistes Christophe Vogt et Michel Moutot se replongent dans cette journée qui a fait près de 3000 morts, transformé l'Amérique à jamais et fait basculer la marche du monde. Fragment d'Amérique, épisode 9, New York, le 11 septembre 2001, une journée en enfer. Bonjour Michel Moutot.
Bonjour.
Tu es journaliste à l'AFP, chargé des affaires de terrorisme et tu travailles au siège de l'agence à Paris. 18 ans plus tôt, le mardi 11 septembre 2001, tu es basé à New York et tu arrives au bureau de l'AFP à Manhattan un peu avant 8h40, comme un jour normal, n'est-ce pas ?
Oui, le 11 septembre 2001, en fait, pour moi, c'est un jour absolument normal. C'est une belle matinée de fin d'été, là, d'été indien à New York, un magnifique ciel bleu, je me souviens. J'arrive au bureau à l'heure habituelle, je passe au Starbucks, je prends mon café, et je me souviens très bien, ça j'oublierai évidemment jamais, j'étais en train de touiller mon café avec mon stylo, comme je fais toujours, au moment où je vois sur New York One, la chaîne d'information en continu de New York, de la fumée monter des derniers étages d'une des tours du World Trade Center. C'est ce qu'on appelle un landmark, un bâtiment iconique de New York, donc quoi qu'il s'y passe, c'est important. Donc je prépare une petite dépêche, hein, ce qu'on appelle un factuel dans notre jargon, incendie au sommet d'une des tours du World Trade Center. C'est pas une grosse histoire, on se dit que bon, c'est un incendie, ils vont l'éteindre. Et soudain, quelques minutes plus tard, je vois la deuxième tour exploser.
At that, oh, now there's another explosion down to the left side on the second World Trade Center tower.
Parce que New York ne filme pas le deuxième avion qui était caché par la tour, et c'est qu'en passant sur CNN que je vois le deuxième avion.
Of the second plane hitting the World Trade Center.
Et là, je me dis que c'est pas du tout un incendie et qu'on a affaire à une énorme, énorme histoire. Bien évidemment, en étant à mille lieues de penser que les tours peuvent s'écrouler.
À l'agence, comment le travail s'organise une fois que vous comprenez que les deux tours sont en feu ?
On se met tous à essayer de comprendre ce qui se passe. Il est décidé par le rédacteur en chef, Francis Cohn, de l'époque à Washington, d'envoyer sur place nos deux reporters du Bureau des Nations Unies, Robert Lowe et Michel Leclerc, qui prennent le dernier métro, puisque le métro va s'arrêter juste après, et qui peuvent heureusement pas tellement approcher et surtout pas pénétrer dans les tours. Ils sont rentrés à pied, puisqu'il n'y avait plus ni métro, ni voiture, ni rien. Tout Manhattan était à pied. Ils ont mis plus d'une heure à rentrer à pied et à écrire leur premier reportage.
Christophe Vogt, bonjour.
Bonjour.
Alors, tu es le chef du service économique Amérique du Nord à l'AFP et il y a 18 ans, tu étais en poste à New York. On est le mardi 11 septembre 2001. Est-ce que tu as le souvenir que tout s'enchaîne très 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 vite ou au contraire, tout va très lentement ce jour-là ?
Non, tout va très très vite. D'ailleurs, les souvenirs sont vagues parce que tout s'emballe. Déjà, il faut bien comprendre qu'on est assez peu nombreux pour couvrir la plus grosse histoire qu'on n'aura jamais à couvrir, j'imagine. Tout est très très flou, mais pendant ce temps-là, tu dois continuer à écrire. C'est ça qui est génial avec l'AFP, c'est que Je pense que c'est un peu comme pour les militaires, par exemple, ou des gens qui font les premiers secours. C'est qu'on est entraîné toute notre vie à faire ça. Et donc, une fois que ça arrive, eh ben, tu passes en automatique et tu sais faire sans même te rendre vraiment compte que tu es en train de le faire.
Donc, tu ne te souviens pas avoir ressenti un certain stress à ce moment-là ?
Si, forcément, pour des raisons personnelles. Mon ex-épouse était dans la tour nord, donc la première tour qui était touchée. Elle était au 57e étage, donc il a fallu très longtemps avant de savoir si l'avion avait touché au-dessus ou en dessous. Au-dessus, ça voulait dire qu'elle était probablement en vie, en dessous, ça voulait dire qu'elle était morte.
Combien de temps t'as été dans l'incertitude ?
Donc elle a réussi à se précipiter en bas de l'immeuble, à partir. Elle a réussi à donner un coup de fil, donc elle m'a appelé pour me dire « voilà, je suis en vie, préviens tout de suite ma famille » et tout ça. Et la tour s'est effondrée après. Je ne savais pas si elle était assez loin ou pas pour échapper à l'effondrement. Nouvelle période d'incertitude et après il a fallu plusieurs heures avant qu'elle puisse rejoindre l'appartement d'un ami pour appeler et pour dire qu'elle était saine et sauve.
Oh, it's just coming down,
Pat. It is just coming down. It's exploding. It is billowing. Pat, the debris is flying. I'm going to run.
And you can see the two towers. A huge explosion now, raining debris on all of us. We better get out of the way.
Il est 10h01 à New York. Tu écris cette phrase concise envoyée à tous les clients de l'agence. L'une des tours du World Trade Center s'est effondrée.
On n'a pas de vue directe sur les tours, donc je le vois à la télé. Et je me souviens très bien être resté pétrifié, je pense, comme l'ensemble des téléspectateurs hein, dans le monde entier. L'expression de ne pas en croire ses yeux. Hein. Moi, je me souviens avoir perdu au moins 30 secondes, bouche ouverte, à regarder ce que j'arrivais pas à croire. Et avant d'envoyer dans ce qu'on appelle un bulletin, donc une information très concise et très urgente et très rapide.
Et tu te doutes rapidement qu'il y aura des milliers de morts ?
Bien sûr, on pense même qu'il y en aurait beaucoup, beaucoup plus. On pensait vraiment que les victimes allaient se compter en dizaines de milliers et pas en milliers. Il se trouve qu'en fait c'était assez tôt le matin, hein, qu'elles n'étaient pas pleines, et que surtout, et ça on oublie souvent de le dire, l'évacuation des deux tours jumelles, pendant qu'elles brûlaient au-dessus, est l'une des opérations d'évacuation les plus réussies de l'histoire du monde. Vous avez, je ne sais pas combien, 20, 30, 40 000 personnes qui ont pu quitter en toute sécurité ces tours, et les 2800 et quelques qui sont mortes à la fin étaient les, d'une part les pompiers évidemment et les retardataires, ceux qui n'ont pas pu partir avant.
The other World Trade Center tower is collapsing. Watch your screen there.
10:28 now. The second World Trade Center, two World Trade Center is disintegrating.
La deuxième tour du World Trade Center s'est effondrée. Tu te souviens avoir vu ces images?
Les images, oui, encore que vaguement. Les bulletins et alertes, non. Je me souviens absolument pas de ce que j'ai écrit ce jour-là. Juste après qu'il y ait eu l'interdiction de vol dans tout l'espace aérien nord-américain, la seule chose dont je me souviens, c'est qu'il y a une rumeur qui circulait comme quoi il y avait encore une trentaine d'avions dans les airs dont on n'avait absolument aucune nouvelle et on ne savait pas ce que c'était. Et là, ça fait un peu film, là, ce que je vais vous raconter, mais c'était vraiment ça, c'est que donc je me suis dit, ok, je pense que je vais mourir sur mon clavier, et donc j'ai continué à bosser. C'est exactement ce que j'ai pensé, avec pas plus d'émotion que la façon dont je suis en train de le raconter. C'est simplement l'idée, voilà, il y a 30 avions, ils vont tomber sur Manhattan, on va tous mourir, et ben on va continuer à travailler.
Michel, tu te rends sur place dans l'après-midi. Qu'observes-tu dans les rues ?
Le fameux nuage gris qu'on a tous vu sur les images, c'était des cendres. Ça ressemblait beaucoup à une chute de neige. Imaginez 10, 15, 20 cm de neige, qui ne soit pas des neiges, mais de la cendre. Nos pas, j'étais avec un photographe, avec, je me souviens bien, Stan Ondan, un de nos photographes. Nos pas ne faisaient pas de bruit. Et c'était complètement surréaliste. La seule chose à laquelle tu pouvais penser, c'était un décor de film.
My name is Stan Honda. I'm a former... Je m'appelle Stan Honda, je suis un ancien photographe de l'AFP et j'étais ici le 11 septembre à photographier l'attentat du World Trade Center. Nous sommes à Fulton, près de Broadway, et je crois que j'étais dans le coin à prendre des photos de personnes fuyant le site du World Trade Center et aussi de la première tour quand elle s'est effondrée. Vous pouviez voir ce nuage de poussière et de débris et de la fumée arriver d'entre les immeubles à travers les rues vers moi, c'était assez angoissant.
Et l'odeur ou le bruit, qu'est-ce que tu retiens de cet après-midi de chaos ?
Le bruit, très peu, avant d'arriver à Ground Zero. Et en arrivant, un bruit que j'oublierai jamais, le bruit incroyablement lancinant des bips d'alerte des véhicules de pompiers. Les véhicules de pompiers sont équipés de petites sirènes stridentes qui lancent des signaux d'alarme s'ils sont écrasés. Et là, vous aviez au pied des tours des dizaines et des dizaines de voitures et de camions de pompiers. Certains étaient écrasés, mais faisaient moins d'un mètre de hauteur. Et tous leurs bips, ainsi que ceux qui étaient portés par les pompiers, pour permettre de les retrouver en cas de catastrophe, et tous ces centaines et ces centaines de signaux d'alarme, ils ont sonné pendant des jours, en fait, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de batterie. Et ça, c'est vraiment le son de Ground Zero. Et l'odeur, c'est une odeur de cendre, évidemment, une odeur de cendre, de kérosène. Et vous avez tout de suite vos réflexes de reporter. Vous n'êtes pas là pour sauver des gens, vous êtes là pour raconter ce qui se passe. Je me souviens avoir croisé un policier qui avait été pris dans le nuage, qui était comme une statue de sel, tout blanc de cendre, lui donner une de mes petites bouteilles d'eau. Il n'a même pas la force de me dire merci, d'ailleurs, il ne me dit pas un mot. J'essaye de lui poser des questions, il ne me répond pas. Il boit un peu, il se verse tout le reste de la bouteille sur la tête.
Et les gens que tu voyais, est-ce que tu pouvais percevoir leur hébétement, l'incrédulité sur le visage ? Enfin, ça devait être apocalyptique.
Il y avait assez peu de monde, puisque l'ordre a été donné d'évacuer très vite tout ce quartier-là. Donc vous avez des sauveteurs qui n'avaient absolument pas le temps de nous parler. Et voir ces fameuses tours de 108 étages que moi je connaissais bien, réduites à un tas de gravats fumants et brûlants de exactement 6 étages, c'est vraiment très difficile à croire. Donc vous devez le voir pour le croire.
Qu'est-ce qui s'est passé dans les jours suivants ? En quoi a consisté ton travail ?
Très vite, en fait, on a décidé, d'un commun accord avec la Red Chef, que je serais le reporter chargé de Ground Zero. Et pendant 2 mois, tous les jours, après, de façon un peu plus espacée, j'étais tous les matins de 6-7 heures du matin à 11h, 11h30, autour de Ground Zero, là où on pouvait accéder. Et j'ai été chargé, en fait, du récit de cette incroyable opération de sauvetage, puis de nettoyage.
Et donc, au cours de ces quelques jours qui ont suivi le 11 septembre, tu écris un article, le 17, assez bouleversant, intitulé « Je creuse pour chercher mon fils ».
En fait, très vite, McDonald's a apporté un immense semi-remorque. Et tout était gratuit pour tout le monde qui était au sud de Canal Street, donc essentiellement des sauveteurs. Et à côté de moi, il y a un monsieur d'un certain âge, extrêmement sale, plein de poussière, une tête de quelqu'un qui n'a pas dormi depuis longtemps, qui boit son café. Et en fait, il ne me parle pas à moi, il parle tout seul. Et il dit, mais mon fils, je vais le trouver. Je vais le retrouver, mon fils. Je vais le trouver. Il a survécu, je vais le trouver. Moi, je m'approche de lui, je lui dis, excusez-moi, monsieur, vous cherchez votre fils. Et il commence à me raconter l'histoire. Mais il a tellement les yeux dans le vague que j'ai toujours l'impression qu'il ne me parle pas vraiment, en fait. Mais il me raconte que son fils est pompier, que lui est un ancien pompier. Et que dès qu'il a vu, parce qu'il travaillait au sommet d'un immeuble, les tours s'effondrer, il a appelé son fils, qu'il a eu assez vite, et qui lui a dit bah, je peux pas rester longtemps, je suis dans les escaliers, là, je suis en train d'aider une dame à descendre, mais tout va bien, ne t'inquiète pas. Et puis il l'a plus jamais eu. En fait, son fils était dans les tours quand elles se sont effondrées, et Henri Tirado est parti, et voulait absolument retrouver quelque chose de son fils, a compris très vite qu'il pourrait pas survivre à quelque chose comme ça. Et ce qui m'avait fendu le cœur, c'est qu'il dormait dans sa voiture parce qu'il ne trouvait pas le courage de rentrer chez lui et dire à ses 2 petits-enfants que leur père était mort. Et ces confessions ont fait que peu à peu, tout autour de nous, les conversations se sont tues. Tout le monde s'est mis à l'écouter. Et à la fin, quand il s'est levé en disant « j'y retourne », absolument tout le monde pleurait. Et moi, je l'ai revu il n'y a pas longtemps, j'ai 2 grosses larmes sur mon cahier.
Et donc, il ne l'a jamais retrouvé ?
Non, et il est parmi ceux dont on n'a rien retrouvé.
Tu travaillais énormément ? Et après les attaques, après les attentats du 11 septembre ?
Ben oui, au point d'ailleurs que je reçois un jour un coup de fil de ma femme qui me dit « il faut que tu viennes parce que je viens de passer devant la chambre des garçons ». Donc j'avais deux petits garçons de 6 et 4 ans. Et le grand dit au petit « maman nous ment, papa est mort ». Parce que ça faisait 10 jours que je rentrais y dormir, je repartais y dormir. Et donc le grand s'était fait une petite histoire dans sa tête comme quoi leur mère leur mentait que j'étais dans les tours puisque j'étais reporter. Et que, en fait, j'avais pas survécu. Et donc là, je me souviens très bien me lever, dire à tout le monde au bureau, là, les gars, j'ai besoin d'une heure, il faut que j'aille à la maison. Et ça, j'oublierai jamais quand j'ai ouvert la porte et qu'ils m'ont sauté dessus. Je leur dis, alors, on croyait que j'étais mort.
Est-ce que tu dirais que psychologiquement, le 11 septembre, t'a affecté ?
Ah oui, sans aucun doute. Le coup le plus dur, c'était quasiment un an jour pour jour après le 11 septembre, où là, je me suis rendu compte que j'avais vraiment besoin d'aide psychologique. Et donc, je suis allé voir un psy, simplement parce que j'avais l'impression que ma vie avait été face à un mur, que voilà, je ne savais plus comment avancer. Et donc, je suis allé voir un psy, ça m'a beaucoup aidé pendant quelques mois.
En France, les théories du complot autour du 11 septembre sont assez nombreuses. À ton avis, pourquoi les pires attentats de l'histoire ils font autant l'objet de ce genre de théories ?
J'ai pas de réponse idéale, mais c'est juste que c'est tellement énorme dans un pays dont on pourrait penser que vraiment les forces de sécurité auraient dû détecter les auteurs des attentats. D'ailleurs, ils l'ont fait, mais comme ils se parlaient pas, ils ont pas réussi à les arrêter. Les tours, comme je le disais, massives, puissantes, on ne peut pas imaginer qu'un avion puisse les faire tomber. Pour être bien clair, pour moi, la théorie officielle, c'est la bonne. 19 terroristes ont détourné 4 avions et les ont plantés dans les deux tours, dans le Pentagone. Et il y en a un où des passagers courageux ont fait tomber en Pennsylvanie. Mais l'idée que des milliers de gens impliqués dans ce qui aurait été un complot puis se taire pendant aussi longtemps, c'est juste ridicule, ça n'arrive pas.
Il y avait des milliers de sauveteurs et ouvriers notamment qui ont œuvré sur le site de Grande Zéro, qui souffrent aujourd'hui de maladies, notamment de cancer, liées aux fumées toxiques présentes dans l'air après les attentats. Tu es allé sur place, toi, Christophe ?
Donc j'ai été à Ground Zero pour la première fois 6 jours après les attentats. Et j'y suis resté quelques heures et j'avais mal à la gorge pendant une semaine. J'avais du mal à parler, du mal à respirer. Et ces gens-là ont travaillé en connaissance de cause. Ils savaient que ça ne pouvait pas être bon pour eux en tout cas. Je ne suis pas sûr qu'ils savaient qu'ils auraient le cancer 10 ans après. Mais c'était évident que c'était nocif. Mais je crois que personne ne s'est posé la question. Ce que je trouve regrettable aujourd'hui, c'est qu'on a failli les abandonner.
Le 11 juin 2019, devant le Congrès américain, John Stewart, humoriste de télévision, plaide pour le prolongement du fonds d'indemnisation des victimes du 11 septembre, qui représente des milliards de dollars.
C'est le temps qu'il a fallu aux pompiers de New York, à la police, aux urgences, pour répondre à un besoin urgent du public. 5 secondes. Des centaines sont morts en un instant. Des milliers d'autres se sont précipités pour continuer à combattre pour leurs frères et sœurs. Les problèmes respiratoires ont commencé presque immédiatement. On leur a dit qu'ils n'étaient pas malades, qu'ils étaient fous. Ensuite, quand les pathologies se sont aggravées et que les choses sont devenues plus claires, « Ok, vous êtes malade, mais ça vient pas d'état de débris. » Ensuite, quand les symptômes sont devenus irréfutables, « Ok, ce sont l'état de débris. » Ils sont intervenus en 5 secondes. Ils ont fait leur boulot. 18 ans plus tard, c'est à vous de faire le vôtre. Merci.
Ce qui est terrible, c'est que c'est quelqu'un qui a fait de la satire pendant des années, qui est devenu célèbre comme ça, qui a totalement embrassé la cause de ces gens, qui a effectivement fait un discours qui a changé les choses, je pense. Mais ce discours, on n'aurait pas dû en avoir besoin. Ce que ces gens-là ont fait, le sacrifice qu'ils ont fait est juste extraordinaire. Et c'est aussi une insulte à tous ces pompiers dont je parlais tout à l'heure, policiers qui sont morts, c'est des gens qui sont rentrés dans les tours. qui n'ont pas réfléchi de savoir s'ils allaient mourir ou pas. Je crois qu'il y a plus de 300 pompiers qui sont morts et policiers.
Et finalement, le Congrès a voté la prolongation de ce fonds d'indemnisation des victimes du 11 septembre. Le président Trump l'a ratifié il y a peu et ça court jusqu'à la fin du siècle, me semble-t-il.
Oui, bien. Mais l'hésitation restera une tâche sur ce Congrès.
Tu étais là avant, pendant et après le 11 septembre 2001. Qu'est-ce que cet événement a changé, selon toi, pour l'Amérique et les Américains ?
Le premier point un peu léger, c'est que tout d'un coup, les New-Yorkais ont fait plus attention l'un à l'autre. Le New-Yorkais n'est pas réputé pour faire particulièrement attention aux autres. Plutôt le contraire, c'est qu'il les pousse. Ça râle. Enfin, bon, les Parisiens sauront de quoi je parle. Et là, tout d'un coup, il y a une conscience d'appartenir à une ville qui a souffert. Il y avait un sentiment de solidarité, d'unité que j'avais jamais vécu avant. Après, évidemment, il y a eu tous les débordements patriotiques qu'on a connus et qui durent toujours. C'est comme ça que l'Amérique a changé. C'est qu'elle s'est militarisée encore plus. C'est une société qui est déjà très militaire. Il y a une admiration des anciens combattants, le soldat américain, l'armée en tant qu'institution. Et ça n'a fait que se renforcer. Le pays est devenu beaucoup plus xénophobe qu'il ne l'était. Il est devenu anti-islamique, très fortement. Ça s'est senti immédiatement. Puis voilà, après le pays est parti en guerre. Les premiers Rangers sont sautés sur une base aérienne en Afghanistan, il me semble, en octobre. Après qu'ils aient envoyé la CIA, ben, ils sont toujours là-bas. Et maintenant, ils pensent à partir, mais on ne sait pas.
Le 9e numéro de nos Fragments d'Amérique s'achève. Le temps pour moi de remercier infiniment Michel Moutot et Christophe Vogt pour leurs souvenirs, l'AFP Vidéo pour le témoignage du photographe Stan Onda dont les clichés du 11 septembre sont entrés dans les livres d'histoire. Au générique de ce podcast, Antoine Boyer à la présentation et à la réalisation, sous la houlette de Brigitte Dussault, Hervé Rouache et Sébastien Blanc. Mille merci aussi à Lucie Aubourg, Éléonore Sens, Valentin Graff et à Léo Mourin. On se retrouve bientôt pour de nouveaux épisodes.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.